Vous faites peut-être partie de ces femmes qui, lorsqu'elles rigolent ou toussent trop fort, ont une petite goutte d'urine qui mouille leur culotte. Tout cela est dû au relâchement des muscles du périnée, ce qu'on appelle parfois de façon peu élégante la descente d'organes. Frédéric Vollery nous en parlait le 15 août dernier. Je vous propose de redécouvrir ce dossier en nouvelle diffusion sur ce phénomène et ses effets, des effets très désagréables, comme l'incontinence urinaire ou fécale, ou les troubles du plaisir, des effets qui font évidemment de tout cela un sujet très tabou.
Oui, un sujet très délicat car très humiliant. La preuve, nombreuses sont les femmes qui m'ont fait part de leurs soucis d'incontinence en préparant l'émission, mais personne ne souhaitait s'exprimer, si ce n'est une seule femme qui a été hospitalisée en début de semaine, donc l'interview n'a pas pu se faire. Je l'ai dit, la plupart des femmes n'osent pas en parler, même entre amies, entre elles, et pourtant Dieu sait si le sujet est concernant. En Suisse, 15 à 30% des femmes ayant accouché souffrent d'incontinence urinaire, 5 à 6% ont des pertes de sel et 10 à 15% rencontrent des troubles orgasmiques. Mmh. Des problèmes qui concernent exclusivement la femme, car sa physiologie est très différente de celle de l'homme. L'homme qui est finalement terriblement chanceux, puisqu'il est très rare qu'il ait des problèmes d'incontinence avant l'âge de 50 ans. Donc, si vous êtes d'accord, Philippe, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les femmes.
D'accord, et on s'occupera des hommes une prochaine fois.
Promis. Je ne vais pas vous réexpliquer les différences anatomiques entre l'homme et la femme, mais disons que chez la femme, tous les organes situés entre le sternum et le pubis, qu'il s'agisse du système digestif ou des organes génitaux, reposent sur une espèce de hamac, une sorte de toile d'araignée formée par les muscles du périnée que l'on appelle également le plancher pelvien, des muscles qui s'étendent du pubis à l'avant au coccyx derrière et qui encaissent tous les chocs.
Et quand vous parlez de chocs, évidemment, on pense en tout premier lieu à l'accouchement.
Évidemment, avec le passage du bébé qui détend le périnée. Je vous propose d'écouter un extrait du livre du gynécologue Sylvain Meyer, également spécialiste en chirurgie réparatrice du plancher pelvien, un extrait d'un livre intitulé « Osons en parler ».
Après avoir écouté pendant 20 ans parler de besoins urgents inhabituels, de perte d'urine, de sel, de modification de la réponse sexuelle, de pesanteur vulvaire, de douleur, l'envie vous vient d'écrire ce que vous avez vu et vivez toutes les semaines. Le besoin d'écrire le vécu de cette jeune femme qui ne peut plus retenir ses urines lorsqu'elle tousse, lorsqu'elle rit, lorsqu'elle se donne à son compagnon. L'existence au quotidien de cette infirmière d'une trentaine d'années qui vous parle, en larmes, de ses pertes de sel qui la souillent journellement. Vous vous souvenez de cette femme d'une quarantaine d'années, humiliée, après avoir inondé de ses urines le canapé du salon d'amis qui l'invitait pour la première fois, elle et son mari. Vous vous remémorez cette mère de deux enfants, suivant son mari en montagne, avec des couches-culottes. Cette autre mère de famille qui change deux fois par an le siège avant de la voiture familiale pour effacer les stigmates d'inondations urinaires journalières. Vous revoyez cette femme de 28 ans qui dit haïr par moments son enfant qu'elle vient d'accoucher il y a une année, accouchement décrit comme tout à fait normal par l'entourage soignant, mais des suites duquel elle conserve une incontinence urinaire et anorectale associée à une perte de son orgasme vaginal. Triple humiliation pour un acte qu'elle considérait jusqu'alors comme le plus merveilleux qu'une femme puisse produire.
Extrait lu par notre collègue d'Espace de Florence Grivel et un extrait du livre « Osons en parler » de Sylvain Meyer. Et ben justement, on va oser en parler avec vous, Sylvain Meyer. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui êtes l'auteur de ce livre, qui est aussi gynécologue et chirurgien du périnée. Ce moment merveilleux, comme on vient de l'entendre, peut avoir finalement des conséquences terribles. Ce moment merveilleux qu'est l'accouchement, qu'est la naissance, peut avoir des conséquences terribles sur la sphère intime de certaines femmes.
Absolument. Les chiffres que vous avez cités sont tirés d'un poster qu'on vient de publier pour notre dernier meeting à Lisbonne. C'est à peu près ça, 15 à 20% des femmes qui ont des pertes d'urine, 4 à 5% des fuites de gaz, 1 à 2% des pertes de sel, liquide ou solide. Et alors là, on entre dans une sphère beaucoup plus intime, 10 à 15% des femmes qui disent perdre leur orgasmie vaginale, alors même, il faut le préciser, que l'orgasmie clitoridienne n'est que rarissimement, elle, modifiée dans un sens négatif.
Frédéric ?
On parle beaucoup donc des conséquences fâcheuses de l'accouchement. On va oser la question qui fâche. Est-ce qu'un accouchement par césarienne permet davantage de limiter les dégâts ?
Alors évidemment, c'est le topic actuel. Oui et non. Tout d'abord, on sait que les chiffres donnés par la littérature font que 10 à 15% de toutes les femmes vont monter sur la table d'opération pour être opérée. Et là, on se dit que 8 femmes sur 10 ou 85 femmes sur 100 ne vont pas être opérées d'incontinence. Donc, faire un geste comme la césarienne à toutes les femmes, c'est évidemment abusif et impensable. C'est tout le problème.
Donc, en fait, ce qui serait bien, ce serait d'arriver à prévenir, à opérer, à pouvoir opérer par césarienne les femmes à risque.
Alors, exactement. Alors, comme seul facteur de risque reconnu actuellement, ce qui nécessite une césarienne, c'est les problèmes d'incontinence avant la grossesse. Et ça, c'est une question à poser à toutes les jeunes femmes qui sont enceintes. On leur dit, est-ce que vous perdez des urines avant d'être enceinte? Et là, tous les travaux démontrent qu'il y a un bénéfice de la césarienne élective.
Autre question controversée, lors de l'accouchement, lorsque le médecin constate que le bébé va sans doute provoquer une déchirure, est-ce qu'il est mieux de laisser les tissus se déchirer ou alors d'inciser et de pratiquer une épisiotomie ?
Alors l'épisiotomie, nombreuses études ont été faites, la dernière remonte à 2 ans, et c'était à peu près 800 femmes dans un groupe où on pratiquait l'épisiotomie systématique, un autre groupe où on faisait l'épisiotomie à la demande, comme on fait maintenant, eh bien aucune différence à 4 ans d'entre les deux populations de femmes, quant aux problèmes urinaires et quant aux problèmes anorectaux. Donc l'épisiotomie systématique, je crois que tout le monde l'a abandonnée maintenant, l'épisiotomie à la demande, c'est ce qui est en cours. Maintenant.
Là, on parle d'accouchement, Sylvain Meyer, mais est-ce qu'il y a d'autres causes néfastes pour le périnée ?
Alors évidemment, les autres causes sont un peu plus en retrait. Si on prend une étude avec des jeunes femmes, étude de la fameuse UCLA à Los Angeles, ils ont interrogé un collectif de jeunes femmes de 23 ans qui sont des athlètes de compétition. À peu près 30% perdent des urines lors des hyperpressions abdominales importantes générées par leur activité sportive. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une pathologie, on dit que c'est une conséquence absolument normale d'une hyperpression intra-abdominale développée pendant le sport. À part ça, les autres facteurs de risque, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs évidemment de profession, ce qu'on appelle en anglais les « heavy lifting jobs », les populations de femmes qui font des travaux pénibles où elles soulèvent des charges, eh bien, elles mobilisent évidemment beaucoup plus intensément leur plancher pelvien.
Ça veut dire qu'il faudrait faire du sport avec modération.
Alors, non, c'est vrai que du sport avec modération...
Ou pas n'importe quel sport, en tout cas.
C'est difficile. C'était les disciplines sportives impliquées là-dedans. Il y avait du tennis, il y avait beaucoup de sports d'aérobic, de compétition, où les sauts interviennent beaucoup sur le plancher pelvien. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des sports à éviter, il y a des sports à conseiller.
Bien souvent, la femme ne sent pas la descente d'organes. Quels sont les premiers symptômes, les premiers signes qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du corps ?
Alors, je crois qu'il faut différencier entre les symptômes de prolapsus, donc de descente d'organes. Et là, c'est essentiellement une sensation de pesanteur du bas-ventre. Parfois, elle constate une boule à la vulve, des lourdeurs inhabituelles du bas-ventre. Il faut les différencier des problèmes d'incontinence, où là, elle constate la présence ou non de petites gouttes d'urine qui accompagnent ce prolapsus. Et ces pertes d'urine peuvent être à l'effort ou en dehors de l'effort. Et puis, il faut encore dire que ces descentes d'organes peuvent être accompagnées aussi, et ça c'est une question à leur demander, de symptômes d'émission de gaz, de troubles, de l'exonération de la vidange du rectum. Mmh. Et voilà.
Ce qui m'a surprise lors de discussions avec d'autres femmes hors micro en préparant l'émission, c'est cette tendance à considérer ces problèmes comme normaux, comme une sorte d'évidence suite à un ou plusieurs accouchements. Vous constatez la même chose ?
Absolument. On dit en anglais les unspeakable women's problems. C'est les problèmes dont on ne parle pas parce que c'est quand même très intime, c'est très gênant. Et puis, il faut aussi le dire que c'est associé souvent avec le vieillissement et on n'a pas envie de dire « Oh là là, elle perd déjà ses urines, donc c'est les premiers signes de vieillesse.
Voilà. » C'est pas très glamour. Hein.
C'est pas très glamour, absolument.
Mais si une femme veut savoir justement où elle en est, veut savoir à quel étage se situent ses organes, est-ce qu'elle doit le demander à son gynécologue ?
Alors tous les gynécologues, bien sûr, sont formés à évaluer cliniquement les troubles de la statique pelvienne, ça c'est sûr.
Mais il faut demander quel examen spécifiquement ?
Eh bien, on commence toujours par un examen clinique. tout bête. D'abord, non. Tout d'abord par une histoire, une anamnèse. Vous perdez l'urine, est-ce que vous avez des sensations de pesanteur? Enfin bref, les questions habituelles relatives aux troubles fonctionnels du plancher pelvien. Puis après, on examine la patiente et ça, chose importante, c'est qu'il faut l'examiner couchée et évidemment en position debout et en la faisant pousser et en regardant la qualité de contraction de sa musculature du plancher pelvien. Puis plus, si on veut aller plus avant, eh bien là, il y a des examens plus sophistiqués, comme l'échographie du plancher pelvien. Et puis, alors, examen ultime, si la patiente est gênée, là, on peut aller vers un examen très spécifique qui s'appelle l'examen urodynamique.
Vous me disiez que ce que toutes les femmes peuvent faire, c'est remplir un questionnaire.
Alors, absolument.
Parlez-nous de ce questionnaire.
Alors, il y a des questionnaires maintenant internationaux développés. On peut leur donner aux patientes qui, et les patientes remplissent tranquillement chez elles des questionnaires relatifs à leurs problèmes de perte d'urine, à leurs problèmes de troubles de la vidange de vessie, à leurs problèmes anorectaux et à leurs problèmes sexuels aussi.
Voilà. Et ça permet d'évaluer leur situation.
Exactement. Mais ça, il faut toujours le dire que cette laisser à l'appréciation propre de la patiente. Pour certaines femmes, de perdre régulièrement de l'urine ne sont jamais gênées, puis pour d'autres, elles perdent 3 gouttes lors d'une partie de tennis, et c'est le drame.
Alors voilà, on l'a dit, la femme ne sent pas les organes descendre progressivement, donc ce n'est pas parce que l'accouchement est loin derrière elle qu'elle est en fait complètement à l'abri, d'où l'idée d'agir de manière préventive. C'est en tout cas le message que tente de faire passer Sylvia Pataki. Sylvia Pataki était gymnaste dans le cadre national hongrois, puis monitrice de fitness. Elle est aujourd'hui spécialiste de gymnastique périnéale. J'ai assisté à son cours abdo-périnée.
Voilà, alors un exercice classique dans les fitness, hein, assis sur la machine, on met l'appareil sur les épaules, on met le poids le plus possible parce que ça montre qu'on a des bons abdos et on se penche en avant. Hein. Si on veut vraiment avoir un effet encore pire, on bloque la respiration et là, c'est la totale. Hein. Catastrophe pour le dos, catastrophe pour les viscères.
Vous avez anciennement été monitrice de fitness. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière vous. Il y a plein de gestes qu'on fait au fitness, notamment les abdos, où on lève la tête à plusieurs reprises, à gauche, à droite. Tout ça, c'est à éviter.
Oui, tout à fait. Tout ce qui est raccourcissement du grand droit, donc le rapprochement du pubis et du sternum, c'est à éviter. Hein. Là, il y a une augmentation de la pression intra-abdominale qui va pousser les viscères vers le bas. C'est mauvais pour le dos aussi, donc il ne faudrait surtout pas faire ça.
Quand on porte une charge, qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas faire?
Alors, quand on porte une charge, la position du dos, hein, donc la posture est déjà très importante. Hein. Il faut vraiment avoir le dos droit et après, il faut faire attention à la respiration aussi.
Vous pouvez me montrer?
Si je veux soulever ma caisse de pommes de terre, 20 kg, je vais déjà descendre avec un dos plus ou moins droit, surtout pas arrondi. Et sur l'expiration, mais d'abord, je souffle un peu et là, je soulève la charge. Voilà. Et quand je reste en haut, puisque ma charge est lourde, je vais faire une respiration costale. Je ne relâche pas les abdos hein, pour protéger justement le dos et le plancher pelvien.
Dans les petits gestes à éviter, vous nous avez dit donc comment il fallait porter une charge. Imaginons qu'on soit couché par terre, comment est-ce qu'on se relève?
Ben, je pense que presque tout le monde prend le genou et donne un petit coup de rein. Il y a le ventre qui sort et puis hop, on est assis. Peut-être avec une hernie discale, on hésite déjà. Hein. Là, on se tourne sur le côté. On ne devrait pas attendre ce problème. On devrait directement faire comme ça. Tourner sur le côté, essayer de garder le dos le plus droit possible. Pas uniquement pour le dos, mais aussi pour les viscères.
Le comportement sur les toilettes, là aussi, il faudrait carrément tout réapprendre. Alors expliquez-nous, comment est-ce qu'on doit faire nos besoins?
Oui, alors là, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment des petits gestes habituels qui sont presque toujours faux. Il faudrait vraiment éviter des poussées. Hein. Les poussées qui vont pousser les viscères vers le bas, de temps en temps, on ne peut pas éviter hein, quand même pousser un tout petit peu, mais ça devrait se passer sur l'expire. Donc je parle là de la défécation, mais même pour le petit besoin, des fois on pousse, même on n'aurait pas besoin. Hein.
Donc il ne faut pas inspirer, bloquer et pousser, surtout pas.
Non, ça, il faudrait vraiment oublier, rayer du dictionnaire, oui.
Vous disiez aussi, quand on est sur les toilettes, il faut absolument éviter d'être sur les toilettes et puis de se moucher en même temps.
Oui, alors là, ça, c'est un autre problème. Il faut éviter les actions contradictoires aussi. Pour uriner, on doit détendre le périnée. Hein. Par contre, pour se moucher, il devrait y avoir un verrouillage automatique du périnée. Donc, les deux en même temps, ça, c'est pas possible. Donc, si on fait pas le verrouillage, si on pousse pendant qu'on fait le petit besoin, c'est catastrophique pour les viscères.
Au niveau des petits gestes de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous dites que la taille basse, c'est l'idéal pour les femmes.
On devrait faire attention aussi aux habits qu'on porte. Les pantalons, les jupes qui coupent à la taille ne sont vraiment pas idéales. Ça ne permet pas une respiration normale, physiologique, et en plus, ça va pousser les viscères vers le bas, hein, puisque ça coupe en haut. Hein.
Bah décidément, Frédéric, il y a une foule de petites choses à ne pas faire.
Effectivement, en tout cas, j'ai appris plein d'astuces, comme par exemple se remettre en posture droite lorsque l'on a envie d'éternuer, et ce même si l'on est affairé, vider sa vessie avant toute activité sportive ou avant de faire un trajet en voiture, éviter de déménager juste après un accouchement avec un périnée très affaibli. Et puis Sylvia Pataki ne se contente pas évidemment d'énumérer ce qu'il ne faut pas faire. Elle montre plusieurs exercices permettant de tonifier le périnée. Ces deux chouchous sont l'approche posturo-respiratoire de la doctoresse Bernadette de Gasquet et la gymnastique hypopressive de Marcel Coffrier, des noms un peu compliqué pour des exercices assez simples. Sylvia Pataki.
La méthode de Gasquet se base sur l'autograndissement maximal. Donc on éloigne un maximum le coccyx et le sommet de la tête. L'exercice, la respiration hypopressive, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, quand on a expiré, on ouvre les côtes et on aspire les viscères. Ça fait un grand creux dans le ventre. Ça diminue la pression intra-abdominale et là aussi, il y a la contraction réflexe du transverse et du plancher pelvien.
Pour tonifier le vagin, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les exercices?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des exercices de tonification, soit avec la méthode hyperpressive de Coffrier, donc cette respiration intérieure. Et si on va vraiment aller spécifiquement pour le vagin, alors pour lutter contre la béance pulvaire, hein, ou tonifier certaines couches de musculature du vagin, ça sera les smart balls, les boules de geisha.
Expliquez-nous comment ça fonctionne.
C'est des boules où il y a un boule métallique à l'intérieur qui fait une vibration de sorte que ça va stimuler la connexion nerveuse donc de ces muscles.
On retient avec les muscles les deux boules et c'est cet exercice-là qui est bénéfique.
Grosso modo, oui. Mais en fait, on devrait bouger. Ça devrait se faire automatiquement. Et c'est cette vibration intérieure. Donc, ce n'est pas pour faire du bureau. Hein. Il faudrait avancer, s'arrêter, pourquoi pas danser ou bien faire une cour de yoga avec.
Est-ce qu'il y a encore d'autres méthodes pour tonifier les muscles du vagin?
Les vibromasseurs. Je recommanderais à toutes les femmes. Quand on parle des vibromasseurs, on pense tout de suite aux sextoys et puis au plaisir. C'est vrai. Mais au moins, contrairement aux boules de geisha, qui procurent pas de plaisir, les vibromasseurs sont agréables et ça va stimuler aussi cette connexion nerveuse. Hein. Il faut joindre l'utile à l'agréable, hein. C'est positif pour les femmes.
Ah ben je ne connaissais pas cette utilité aux vibromasseurs. Sylvain Meyer, vous êtes toujours avec nous, gynécologue, spécialiste en chirurgie réparatrice du plancher pelvien. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces exercices, de tout ce qu'on vient d'entendre?
Alors c'était très intéressant. Pour vous mentionner un brin d'historique, il y a à peu près maintenant 18-20 ans, on a établi une collaboration avec les physios et développer ce qu'on appelle la rééducation du plancher pelvien, qui a fait l'objet de cours animés par nous-mêmes, par les urologues, les coloproctologues et puis les neurologues, où on apprenait aux physios à travailler le plancher pelvien. Alors, l'équivalent des boules de geisha, c'est une vieille chose. On avait les cônes, ces petits cônes que les femmes se mettaient dans le vagin, allant de 10 grammes à 40 grammes, qui stimulaient l'arc réflexe et qui faisaient ainsi travailler le plancher pelvien. Les autres techniques, eh bien, c'est ce que font les trois techniques de base, le travail du plancher pelvien par la physio, qui met ses doigts dans le vagin, qui fait travailler la musculature sous son contrôle à elle. La deuxième technique, c'est le biofeedback, où on met une sonde, une jauge de contrainte dans le vagin, et la femme peut voir ses progrès sur l'écran. Et la troisième technique, c'est une technique plus passive, où le physio introduit une sonde qui permet de délivrer un courant électrique, c'est l'électromyostimulation qui permet ainsi de faire travailler la musculature. C'est à peu près ces trois techniques de base. Il y a des modifications, comme la technique de Mme Dugasquet ou de Coffrier. Bref, ça, un peu trop difficile, un peu trop long à expliquer sur les ondes. Comme ça.
Et pas très radiophonique, surtout.
Et pas très radiophonique, non. Mais les physios, actuellement, sont formés aussi à ce panel de techniques.
Frédéric.
Revenons aux femmes. Les problèmes liés à la descente d'organes surviennent souvent lors de la ménopause. Est-ce que la prise d'hormones a été donc très décriée ces dernières années? Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière pour que les tissus aient plus d'élasticité?
Alors, la prise d'hormones localement est quelque chose de largement conseillé. Donc, on introduit une à deux fois par semaine un peu d'œstrogène dans le vagin. Et avec ça, on ne diminue pas l'incontinence à l'effort, mais en tout cas tous les problèmes de besoins urgents, d'incontinence d'urgence, ça, alors tous les travaux démontrent que sont nettement améliorés par ça. En plus, évidemment, d'avantages pour la poursuite des relations sexuelles dans la phase postménopausique. Mais évidemment, avec des œstrogènes locaux, on ne va pas diminuer l'importance d'un prolapse, non, ça.
Et la chirurgie, Sylvain Meyer, puisque vous êtes chirurgien spécialisé dans la réparation du plancher pelvien, dans quel cas on recourt à la chirurgie ?
En dernier cas. Et ça, c'est une notion à laquelle je tiens. Il faut tout d'abord rééduquer un plancher pelvien. Ensuite, la patiente dit vraiment, ça marche pas mieux. Donc, j'ai envie de me faire opérer. Et ça, c'est une phrase que j'ai envie d'entendre. Je dois me faire opérer. Je vous le demande. Et puis, alors là, il faut évidemment, c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a plus de 150 opérations décrites là-dessus. Mais en gros, pour les opérations d'incontinence urinaire à l'effort, on a maintenant les techniques de bandelettes qui fonctionne bien, à peu près 85% de bons résultats. Et puis pour les techniques de prolapsus, alors là je vous les énumère pas, mais il y a les techniques de chirurgie conventionnelle qui sont enseignées à nos FMH, et avec lesquelles maintenant on voit se profiler, intérêt financier oblige aussi, les techniques de filet. Et là, c'est encore un autre sujet. Et puis, pour la réparation du plancher postérieur, eh bien, les techniques de chirurgicales de base, de gynécologie de base, qui sont toujours appliquées, toujours valables.
Il nous reste une minute, Sylvain Meyer. Vous travaillez en ce moment sur une solution pour prévenir, éviter ce genre de troubles avec des microcapteurs. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Des microcapteurs, donc, posés dans le vagin.
Alors, comme on peut pas faire une césarienne à tout le monde pour éviter ces problèmes-là, c'était intéressant d'enregistrer les pressions générées par un bébé qui descend dans la filière génitale. Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est un travail qui est encore fait grâce à au département des micro- et nanotechnologies de l'école d'ingénieurs d'Yverdon avec le professeur Salchli, où ils ont construit un microsystème, une sorte de petite capsule qu'on met dans le rectum et qui enregistre tout ce qui se passe dans la filière génitale au moment de l'accouchement. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ce que les sages-femmes anciennes savaient, c'est-à-dire qu'une femme peut accoucher un bébé à des pressions très basses, et puis une autre à des pressions très élevées, générées pendant un moment. Et on n'a pas de corrélation entre ces pressions et les dégâts. En revanche, la surface des pressions, oui, on a une corrélation entre les plaintes des patientes, entre l'incontinence à l'effort, l'incontinence des selles et autres. Ceci, lorsque les patientes sont questionnées 14 mois après leur accouchement. Donc, il y a là une source et une recherche à développer et que l'on espère, évidemment, toujours développer.
Voilà, pour éviter ce que vous disiez, de faire des césariennes de confort à toutes les femmes, ce qui serait absolument impossible. Merci beaucoup de vos explications, Sylvain Meyer. Je rappelle que vous êtes gynécologue, spécialiste en chirurgie réparatrice du plancher pelvien, également auteur d'un livre intitulé « Osons en parler », c'est paru aux éditions Favre, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur la gymnastique périnéale et le questionnaire mesurant les fonctions sexuelles de la femme sur notre site internet onenparle.rsr.ch.